Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Washington. Elle a été racontée par un reporter du Wall Street Journal. Joe Wish est DRH dans une entreprise d'ingénierie. Elle recherche un ou une nouvelle ingénieure informatique. Et l'une des candidates attire son attention. Elle possède des compétences rares sur le marché. Elle passe les entretiens avec brio, ainsi que les tests techniques. Tous les managers sont d'accord pour recruter cette perle rare. Et Joe Wish appelle l'heureux élu pour lui annoncer la nouvelle. Comme elle ne décroche pas, Joe Wish laisse un message sur son répondeur, puis double, comme on dit, avec un SMS. Pas de réponse. La DRH demande alors à un collègue d'essayer, mais sans succès non plus. Joe Wish, plaisantant à moitié, laisse alors un message à sa recrue pour savoir si elle n'a pas été kidnappée par des extraterrestres. Enfin, elle s'inquiète sérieusement et imagine le pire. A-t-elle eu un accident de voiture? Peut-être que quelqu'un de sa famille est malade. Joe Wish envoie même une carte par courrier. Aucune réponse. 3 semaines et une bonne douzaine de messages plus tard, la DRH va enfin comprendre qu'elle a tout simplement été ghostée. Le terme vient du verbe anglais « ghost », littéralement « fantômé », autrement dit, couper tous les liens avec une personne du jour au lendemain, ne plus répondre à aucune de ses sollicitations, en disparaissant, enfin en se contentant de ne pas répondre. Le phénomène concerne surtout les relations amoureuses, mais touche désormais le monde du travail, aux États-Unis surtout. Selon le Washington Post, dans certains secteurs d'activité où l'offre est plus importante que la demande, le ghosting a peu à peu colonisé les espaces de travail. Les candidats ne se présentent pas aux entretiens d'embauche, certains acceptent l'offre et ne viennent jamais, d'autres enfin quittent leur entreprise du jour au lendemain sans prévenir personne. Heureusement ou hélas, en France, nous n'en sommes pas encore là. L'excès d'emploi n'est pas pour demain. Mais le ghosting amoureux ou amical est devenu une pratique courante et assez terrifiante. Tout de suite donc, 3 histoires de ghosting racontées par Judith Chétrit pour vous souhaiter une bonne année 2019, no ghosting.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Il y a 3 ans, quand j'ai eu 21 ans, j'étais célibataire, j'avais jamais vraiment rencontré de garçon. Des amies à moi étaient inscrites sur Tinder et elles en parlaient beaucoup. Alors au début, je trouvais ça un peu ridicule, c'est bizarre de flirter avec des garçons comme ça. Et puis quand j'ai eu 21 ans, je me suis dit oui, bah j'aimerais bien un peu avancer de ce côté-là, j'arrive pas trop à aller vers les garçons. Du coup, je me suis inscrite sur Tinder. Donc à ce moment-là, j'étudiais à Saint-Étienne et puis il devait pas y avoir beaucoup de garçons sur Saint-Étienne parce que le périmètre de Tinder s'est élargi jusqu'à la région de Lyon. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler à un garçon, très gentil, un petit peu plus âgé que moi. On s'est bien entendu tout de suite, on avait un peu les mêmes références musicales, etc. C'est lui qui a commencé à me dire « Ah, bah, ça serait cool qu'on se voit, même si c'est un peu loin. Moi, je peux venir te chercher à la gare parce que j'habite pas sur Lyon même, etc. » Et mes amis, donc à qui j'avais parlé de cette histoire, elles me disaient oui, bah, enfin, si tu le sens bien, vas-y, mais fais attention à toi quand même, parce que tu le connais pas. Donc, bah, j'ai pris la décision quand même d'aller le voir sur Lyon. Mais comme c'était ma première rencontre, que le garçon, il était un peu plus âgé que moi, je me sentais, enfin, très timide. En fait, j'ai bloqué un petit peu. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? C'est trop bizarre. En plus, il est venu me chercher. Il travaillait dans la restauration à ce moment-là. Il faisait des livraisons. Donc il était avec son camion de livraison et il me disait « Ah bah on rentre au dépôt et après on passe la soirée ensemble, enfin on voit quelque part d'autre ». Donc j'étais dans un camion sur Lyon et je me disais « Qu'est-ce que je fais exactement ?». Puis finalement après on est allé boire un coup sur les hauteurs de Lyon avec la vue et tout, c'était sympa, on a parlé un peu plus de nous. Il m'a proposé d'aller à une soirée avec des amis à lui sur les quais. Donc j'ai dit « Bah oui, ok, bah, de toute façon je suis là pour passer la soirée si ça se passe bien ». Donc j'ai dit « Ok, on y va ». C'était assez agréable de connaître des gens que je me dis, bah oui, j'aurais bien aimé les connaître adolescents, peut-être que j'aurais osé faire plus de trucs. Du coup, avec ce garçon, donc on a passé la nuit ensemble, donc ça a été mon premier amant. Et en fait, quand je suis partie pour le rencontrer, j'étais pas forcément dans cette optique-là, mais en même temps, je me disais, si ça se passe bien et qu'on se plaît bien, ça me posait pas de problème de faire ma première fois comme ça, en fait. Donc on a passé la journée du lendemain ensemble, c'était un peu comme une idylle, on allait dans un parc, enfin il m'a invité pour manger le midi, donc c'était super cool. qui m'a raccompagnée à la gare, et on s'est dit que c'était bien, enfin qu'on avait passé une bonne journée, et qu'on continuera à s'envoyer des messages et à se parler. On s'est vu plutôt régulièrement, donc c'était quand même en juin, donc je finissais les cours et l'été allait arriver. J'ai travaillé en juillet en fait, donc on a pu se voir que le week-end. On a commencé à s'appeler aussi, pour entendre nos voix en fait. On s'envoyait des petits cœurs par SMS, des petits mots qui montraient une certaine affection. Enfin, ça me faisait chaud au cœur de voir qu'on tenait un peu quand même l'un l'autre, même si on se voyait pas trop. Donc là, ça faisait quoi, 2 mois et demi à peu près qu'on se fréquentait. Et à la rentrée de septembre, j'ai changé de fac. Enfin, je finissais ma licence et donc j'ai commencé un master dans la région de Grenoble. Et il avait beaucoup de travail, mais il me disait « Bon, bah, c'est pas grave, viens, j'ai trouvé un appart ce week-end, on pourra y aller. Donc dis-moi quand t'arrives, on se prévoit ça pour ce week-end. » Et sur le reste de la semaine, je lui envoyais normal un message, je lui envoyais un ou deux snaps normalement, et il les a pas vus. Donc le dimanche arrive et toujours pas de nouvelles. Donc là, en fait, je commence à m'inquiéter, comme on fait dans toute relation. Je me dis, ah, il lui est peut-être arrivé quelque chose, il a eu un accident. Voilà, donc j'essaie de l'appeler, ça répond pas, donc je lui laisse un petit message. Ah bah dis-moi, enfin si ça va, si c'est toujours ok pour ce soir, bisous. Donc pas de réponse. Là, j'envoie un message à un de ses amis sur Facebook, mais que je n'avais pas en contact Facebook. Donc peut-être que cette personne n'a jamais vu mon message, mais en gros, je lui demandais si le garçon allait bien et s'il savait où il était. Pas pour harceler ou quoi, mais vraiment parce que je m'inquiétais, en fait. Donc le dimanche, je vais donc dans la ville où il habite, parce que je devais y passer quoi qu'il arrive pour retourner dans la région de Grenoble. J'attends un peu, je raccompagne mon frère qui étudiait dans cette ville à ce moment-là. Comme ça, je fais durer un peu, je me dis, ça se trouve, il va m'appeler là, il sait que je suis sur Lyon. Mais bon, maintenant, pas de nouvelles, donc je rentre sur Grenoble. Et le lendemain, toujours pas de nouvelles, donc je commence ma semaine un peu inquiète. Et je me connecte sur Facebook un soir et je vois qu'il a partagé un lien de déco pour chez lui, enfin bon, voilà, un petit lien comme ça. Donc je me dis, bon bah d'accord, c'est qu'il est vivant, c'est bien, il lui a rien arrivé, il va bien. Là, je commence à me poser des questions, je me dis peut-être que c'est pas normal en fait qu'il me réponde pas. Donc je commence à en parler à mes amis, ils me disent... ouais, bah c'est vrai que ça se fait pas trop, peut-être envoie-lui un petit message pour savoir ce qui se passe. Donc c'est ce que je fais. Ah bah salut, comment ça va? J'ai vu qu'on s'était pas vu ce week-end, dis-moi si ça va, enfin voilà quoi, un truc très gentil. Toujours pas de réponse, donc la semaine avance, et plutôt en fin de semaine, je lui renvoie un autre message, en étant un peu plus ferme, en disant « Bon, bah j'imagine qu'il y a quelque chose qui va pas, mais si t'as plus envie de me voir, en fait, dis-le, mais j'ai envie de savoir, voilà. » Mais pas méchant non plus, juste en mi-inquiète, mi-questionnement. Et toujours pas de réponse à ce moment-là. Vu qu'il répond pas à mes SMS, en fait, je me sentais gênée d'essayer de l'appeler. C'est peut-être bête, mais j'avais pas envie d'être en mode harceleuse. Réponds-moi absolument tout de suite dans les 2 jours qui viennent, ta non-réponse. Donc, c'est pour ça que je continuais par message. La semaine qui a suivi, je l'ai pas appelé non plus. Donc, je lui ai renvoyé un message, mais en colère cette fois-ci, où je lui disais, franchement, ça se fait pas. Je sais que t'es fatiguée, mais c'est pas cool. Et je le blessais volontairement, en fait, pour qu'il réagisse un peu. Et là, il m'a répondu sur Snapchat. J'ai vu par la suite qu'il avait ouvert mes 2 snaps qui dataient de la semaine d'avant, en disant « Ah bah oui, eh ben, je pense à toi, il faut qu'on parle, je t'appellerai. » Donc j'ai dit « Bah ok, j'attends qu'il m'appelle. » J'ai commencé à me dire que c'était fini et à m'en vouloir en fait à moi. Surtout que c'était ma première expérience, donc à ce moment-là, je me disais « Bah, j'ai pas connu d'autres personnes avant, d'autres relations amoureuses, donc j'ai peut-être fait quelque chose de mal, je me suis peut-être mal comportée ou... » Voilà, c'est pour ça que j'ai d'abord commencé à m'en vouloir à partir de ce message-là. Et il m'a pas appelé. Donc je lui ai renvoyé un message. Tu tiens tellement plus à moi comme ça que tu veux pas me parler. En gros, c'était avec un petit smiley qui sourit, qui veut tout dire aussi, je sais pas. Les petits smileys qui sourient, ça fait bizarre en fin de phrase alors qu'on s'envoyait des petits cœurs avant. Tout ce jeu de messages où j'avais pas de réponse a duré 2 grosses semaines à peu près. Comme j'en avais marre, en fait, de pleurer, d'être un peu déprimée, je me suis remise sur Tinder. Parce que je me suis dit, bah, j'ai besoin de voir quelqu'un, enfin, d'une relation pansement, comme on dit. Et donc, j'ai commencé à parler avec un garçon, cette fois-ci dans ma ville. On a commencé à se fréquenter, en fait, pareil, le premier soir. Et le lendemain de cette rencontre, je ne sais pas si c'était un signe, le karma, mais j'ai reçu le SMS d'explication du garçon en question. Un SMS très très long qu'on pourrait envoyer à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, donc bon, pourquoi pas. Et le message, donc très long, il finit par « Ah, bah, j'ai rencontré quelqu'un plus près, je voudrais voir ce qui peut se passer avec cette personne, mais t'inquiète pas, je t'ai jamais trompé, c'était cool ensemble. » Voilà, je me dis « Oui, bon, enfin, c'est bon, ouais, ok, c'est des excuses, mais te fous pas de moi non plus, ok, j'ai compris, c'est pas grave. » Donc ce message reçu en fin de matinée, j'attends un peu, je me dis « Est-ce que je vais lui répondre ou pas ?» Bon, je vais lui répondre quand même. Donc, je lui renvoie un message assez long aussi, qui répond à peu près point par point à ce qu'il me dit, où je lui dis que je comprends pour ses galères, que je le crois qu'il a été sincère et que peut-être que c'est de ma faute aussi, voilà, qu'il faut sourire à la vie comme on l'a fait et que j'étais contente d'avoir fait plein de premières fois dans la vie avec lui. Voilà, donc message très long. Donc, ok, il n'a pas répondu, hein, évidemment. Je ne sais pas s'il l'a reçu ni quoi, bon. Et là, je suis passée dans la phase de rupture où je suis en colère. Et là, je regrette mon message très long. Je me dis, mais j'étais trop bête, ma pauvre. Mais t'as vu comme il t'a traité, même si c'est ta faute. Enfin, ça se fait pas. C'était là, je me suis dit que c'était une façon très très lâche en fait de rompre. Que c'était un refus de communiquer, un refus de s'expliquer. Je me suis dit, bah le garçon, il s'est voilé la face, quoi. Pendant longtemps, je m'en suis voulu. Ouais, bien un an, je pense, de ce message-là. Et je lui en ai voulu pendant très longtemps. En fait, j'ai eu du mal à digérer cette relation. Enfin, pas cette relation, juste cette rupture, en fait. Ça m'a fait mal parce qu'après, ça a un impact sur la personne qui se fait ghoster. Donc, c'est pas une rupture physique, finalement, parce que la personne, on la voit pas. Enfin, on la voit pas partir, quoi. C'est vraiment une rupture virtuelle et c'est ça qui fait mal aussi. Et je suis bien contente pour ce coup-là d'avoir un peu harcelé, entre guillemets, la personne. Donc, finalement, j'ai dû lui envoyer 4 SMS en 2 semaines, donc ça va, mais je suis contente de l'avoir fait pour avoir ces explications parce que je pense que sinon, ça aurait eu encore un plus gros impact sur ma vie.
France Culture, les pieds sur terre.
Ici, c'est l'appartement effectivement où je vis depuis 20 ans maintenant. Donc oui, c'est là où d'abord j'ai rencontré Kevin. En fait, il y avait mon ancien colocataire et ami Loïc qui avait décidé de partir. Donc il y avait une période de trou qui correspondait à 3 mois. En ce temps-là, il fallait que je trouve quelqu'un pour payer le loyer, pour occuper la chambre que lui, il occupait. Alors, en 2001, hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne mettait pas une annonce sur Facebook, ça ne se passait pas comme ça. Donc, c'était plus du bouche à oreille, donc je téléphonais à des gens, j'essayais de trouver du monde, etc. Mais ça n'a pas été facile, donc je me suis retrouvé un peu à accepter quelqu'un. Et donc, il s'appelait Kevin, et c'était un Irlandais qui vivait à Paris. Et il a débarqué avec quelques sacs, il s'est installé dans la chambre. Et alors je pense qu'il était un petit peu plus âgé que moi. En fait, si je me rappelle bien, je crois qu'il me disait qu'il faisait des études à Tolbiac. J'ai l'impression que ses contacts, les gens avec qui il traînait, c'était pas mal des étudiants de cette fac, les amis qu'il avait. Enfin, je sais qu'il traînait dans ce quartier. Mais bon, voilà, quelqu'un qui fait des études mais qui étudie jamais, donc je le voyais jamais parler de ça, ou c'était pas quelque chose d'important. C'était comme un personnage dans un film dont on dirait qu'il est cordonnier et on le voit jamais en train de s'occuper des chaussures. Il était venu en France pour faire des études, ça c'est sûr. Il parlait très bien français, on pouvait avoir des discussions très faciles avec lui, on n'avait pas besoin du tout de parler anglais, et un très bel accent irlandais. Et en fait, ce qu'il faisait de ses journées, c'est que bon, c'est vrai qu'il se couchait souvent tard, il se levait tard aussi, et il sortait tout le temps, mais vraiment tout le temps, il sortait et puis il se bourrait la gueule, quoi. Il rencontrait des gens. En fait, c'était quelqu'un qui avait un contact très facile avec les gens. Je pense que la plupart des gens le trouvaient tout de suite très sympathique. On rigolait. C'était assez simple les contacts avec lui. On se prenait pas la tête. Et il était assez avenant, et à l'époque je dessinais beaucoup, donc j'étais beaucoup chez moi, je travaillais beaucoup sur des projets collectifs. On s'occupait du Festival of d'Angoulême à cette époque-là. On faisait plein de projets avec plein de copains, il y avait souvent plein de gens à la maison. Du coup, c'était une cohabitation qui était très simple, en fait. Et quelque part, c'est ce que je cherchais. Il avait un côté un peu dandy, trash, bien sapé, chemise, pantalon, veste. Et aussi, on s'est rendu compte que il n'avait pas de problème d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, il payait le loyer quand je lui demandais. Il n'y pensait pas forcément parce que, comme j'ai dit, il était déconnecté de la réalité. Mais quand je lui réclamais l'argent, des jours après, il venait et il me l'apportait, quoi. Et il allait régulièrement en Irlande pendant qu'il habitait ici. Donc, une semaine, il me dit, ce week-end, je vais partir pour un enterrement en Irlande. Voilà, je vais bien devoir ma famille, etc. Donc, je dis, OK, pas de problème. Rendez-vous en début de semaine prochaine, etc. Il me dit, ouais, OK, écoute. La semaine d'après, je le vois pas revenir. Mais je m'inquiète pas. C'est-à-dire, en début de semaine, je m'inquiète pas. Je me dis, il est pas encore revenu. Un détail important, c'est qu'il y avait une amie à lui qui l'appelait pour venir boire des coups. J'avais l'habitude de l'avoir au téléphone. Téléphone fixe à l'époque, évidemment. Et elle a commencé à appeler. Et j'ai dit, j'ai pas de nouvelles et tout. Et on s'appelait régulièrement et on essayait de se donner des nouvelles, mais on n'avait aucune piste. Son nom faisait que Kevin Doyle, donc c'était pas forcément facile de le retrouver. C'est un nom et un prénom irlandais assez banal, donc on s'est pas dit on va faire des recherches, puis ça nous semblait impossible, quoi. À l'époque, c'était les balbutiements d'Internet, on se voyait pas de téléphoner, on n'avait aucun point de départ, en fait. Et puis, il y avait aussi la banque de Kevin en France qui commençait à se poser des questions parce qu'en fait, il devait contracter une assurance. Alors ça, il m'en avait parlé parce qu'il s'était retrouvé à la banque avec un banquier qui avait essayé de lui vendre une assurance et il avait accepté. Alors c'est là qu'on a compris qu'il n'avait pas de problème d'argent, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le banquier avait vu qu'il avait fait affaire à quelqu'un qui avait pas mal de fric et qui avait peut-être moyen de lui vendre des trucs, des assurances, voilà. Donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de rentrer dans sa chambre et de fouiller ses affaires. Ouvrir ses affaires, ses sacs, regarder ce qu'il y avait dans sa table de chevet et essayer de voir ce qu'on pouvait en tirer. Et donc on a découvert des petites cartes de décès de ses parents. Donc on a compris que ses parents étaient morts. On a trouvé aussi quelques photos de famille. Donc on s'est rendu compte que toutes ces fringues, en fait, c'était que des fringues de marque, Armani notamment, je m'en rappelle de ça, mais que des choses assez de valeur, quoi. Alors on s'est dit que c'était un héritier qui avait touché l'héritage de ses parents morts et qu'il vivait la grande vie à Paris et qu'il a dû être rappelé à des obligations et que pour lui c'était peut-être fini la vie de débauche parisienne et qu'il fallait qu'il reste en Irlande et qu'on l'a peut-être obligé à rester là et à prendre certaines responsabilités. Et il avait dû rester, il pouvait plus revenir et puis il nous avait un peu oublié au passage, quoi. Tout ça, ça collait très très bien, en fait, ça racontait une histoire. Et alors on aurait bien aimé savoir ce qu'il était devenu, mais finalement... On l'a jamais su parce qu'il est jamais revenu, mais le truc qui était le plus déstabilisant finalement, c'est qu'on se disait toujours, il peut revenir. Parce qu'il nous avait paru tellement imprévisible tout ce temps-là, que tous les jours on était là à la maison et on se disait, à tout moment, la porte va s'ouvrir, on va entendre la porte qui s'ouvre, la clé dans la porte, et il va débarquer, quoi.
Alors j'ai 28 ans, j'habite à Paris et je travaille en agence de communication. En 2014, je décroche un job dans cette agence et on me met très vite sur un projet de développement de site web assez complexe. Donc on travaille avec un prestataire désigné pour cette mission et cette fille est mon interlocutrice côté prestataire. Je me rends compte que le projet, avant mon arrivée, a été mal cadré et que ça commence un peu à partir en cacahuète. Donc nos échanges qui étaient très cordiaux au début... commence à se tendre un petit peu. Très vite, on se rend compte qu'une rencontre physique entre mon agence et le prestataire est nécessaire pour remettre un peu les choses à plat. J'arrive du coup dans la salle de réunion et je la vois rentrer. Je me dis, ah ouais, elle est pas mal, quoi. Elle est mignonne. La réunion se passe et le lendemain, cette fille m'ajoute sur Facebook Messenger. À ce moment-là, je me doute de rien, je me dis que c'est dans une optique professionnelle, même si c'est pas forcément très orthodoxe. Et elle me dit, je suis pas là pour parler boulot. Moi, ça me surprend pas mal. À l'époque, j'étais en couple avec ma copine, j'étais amoureux, ça se passait bien. Et clairement, je voulais pas me lancer dans ce jeu-là. Bon, au final, le projet avance et est annulé. Un an passe. Un jour, je vois qu'elle participe à un événement, donc un concert d'un rappeur sur Paris. Et je réfléchis pas forcément et je tague sur cette publication des amis à moi pour les informer du concert. Ce que j'avais pas pensé, c'est que si jamais j'interagis avec cette publication, forcément cette fille va recevoir une notification. Elle vient me parler quelques minutes après sur Messenger. Et à partir de ce moment-là, on commence à se parler sur Facebook. Et du fait de mon travail, j'ai des invitations pour une cérémonie de remise de récompense dans une salle de concert parisien. Donc je lui propose d'y aller en lui disant, bon, on va se marrer, en plus c'est open bar, et puis on pourra discuter, ça va être cool. C'est la première fois que je la revois depuis un an. Bah, elle est toujours aussi jolie, et on discute, on se dévoile. Je passe une bonne soirée. Le lendemain, on continue à se parler, et puis s'installe cette espèce de relation où... on attend la notification sur son téléphone qui signifie qu'on a reçu un nouveau message, une espèce d'impatience qui se crée. On se voit pour un second rendez-vous, on s'embrasse, et un troisième rendez-vous où elle me propose de passer la nuit chez elle, avec elle. Et elle commence à se livrer à moi sur son passé, et plus particulièrement une relation passée où j'ai compris que ça s'était très mal terminé, qu'elle en avait beaucoup souffert et que... sa confiance en elle et dans les relations en avait pris un coup. Moi, ça me met une espèce d'oppression, dans le sens où je veux bien faire les choses, être bienveillant envers elle, et du coup, ne pas lui mettre de pression. Et un jour, je lui propose de passer chez moi, parce qu'on faisait une soirée avec des amis, et elle n'était jamais venue chez moi. Et à force de lui parler de mes amis et mes collègues, j'avais envie qu'elle les rencontre et qu'eux rencontrent cette fille dont je parlais beaucoup. Vient le soir où elle était censée venir et je sais qu'elle avait un concert juste à côté de chez moi. Je lui envoie un premier message pour savoir comment était son concert et si ça allait. Et pas de réponse. Puis un deuxième aux alentours d'une heure du mat pour lui dire « Bon écoute, on part de l'appart pour aller ailleurs, donne-moi des nouvelles. » Et j'ai pas de nouvelles. Et le lendemain, elle m'envoie un message où elle me dit « Écoute... Voilà, j'ai réfléchi, je sais pas très bien comment se déroule une relation normale et saine. Je suis en train de me replier sur moi et je suis beaucoup sur la défensive, je suis pas très lunatique. J'ai pas envie que t'en souffres, donc je sais pas si on devrait continuer cette relation. » À ce moment-là, on doit être, ensemble depuis 3 semaines. C'est assez récent, mais le temps se dilate un peu dans ce genre de relation. C'est très intense et vu qu'on parle beaucoup... et qu'on se voit aussi beaucoup, j'ai l'impression déjà de bien la connaître et qu'on est déjà dans une relation un petit peu avancée. Je lui dis que si elle a besoin de temps, elle aura tout le temps dont elle en aura besoin, parce qu'elle me plaît beaucoup et que j'ai envie qu'il se passe quelque chose avec elle. D'ailleurs, il se passait déjà quelque chose avec elle. Elle me dit un jour qu'elle me propose des bulles de relation. C'est-à-dire qu'on va se voir pendant des petits moments, que ça va être très bien, mais qu'elle peut pas s'engager sur une relation longue, saine, durable et sans date de péremption. Moi, innocemment, j'accepte en me faisant peut-être un peu des illusions, en me disant, ces bulles de relation, on va se voir, ça va être cool. Et du coup, elle aura envie de plus me voir et on pourrait transformer cette relation de bulle en une relation qu'on pourrait qualifier de normale. Et un soir, on va à un concert et elle oublie dans ma veste son paquet de cigarettes. Et le lendemain, elle m'envoie un message me disant « Est-ce que tu peux passer à mon travail, me rendre mon paquet de clopes parce que je suis en galère et j'ai envie de fumer. » Donc je lui dis « Pas de souci. » Donc je vais à son immeuble que je connais parce que j'avais fait une réunion là-bas. Et je suis en bas de son immeuble, je lui dis que je suis en bas. Elle me dit « Écoute, je suis actuellement en ligne pour un appel téléphonique groupé. Donc je vais descendre, je vais pas pouvoir te parler. » Je fais « Ok, pas de souci, descends. » Elle descend, donc elle est en effet au téléphone. On se fait coucou, je lui donne son paquet. Elle me dit au revoir de la main et elle remonte. Je retourne au travail et je reçois pas de message de sa part. Pas de merci, pas quand est-ce qu'on se voit. Et je me dis à ce moment-là, c'est pas à moi de la relancer. Ça faisait déjà pas mal de messages qui venaient de moi et pas forcément d'elle. C'est là que commence le ghosting et on va dire qu'elle se transforme en fantôme. Elle ne répond plus, elle ne donne plus de nouvelles. Moi, je me sens également extrêmement mal. Je me dis que ça doit forcément venir de moi. Donc je relis nos dernières conversations à Messenger en essayant de trouver un indice. Et là, il y a une grande injustice qu'on ressent. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et toutes mes relations étaient passées par une phase, on va dire, où on se rencontre, on s'aime comme des fous, on s'engueule, ça périclite, et au final, on a une dernière vraie conversation de rupture. C'est jamais agréable d'avoir une conversation de rupture, mais c'est à se rendre compte de ce qu'on a pu faire et qui n'a pas plu à l'autre, de ce qu'on aurait pu faire pour éviter de se retrouver dans cette situation. Donc voilà, j'ai tous ces sentiments et je me pose cette question pendant 15 à 20 jours. Et il se trouve que sa date d'anniversaire arrive. Et je lui envoie du coup, pour le symbole on va dire, juste un message, bon anniversaire, j'espère que tu vas bien. À ce moment-là, j'espère naïvement que j'aurai une réponse où elle me dira « Je suis désolé, viens, on se voit, j'ai envie qu'on soit ensemble. » Enfin, j'ai juste droit à un merci banal quelques heures après. Donc des mois passent, donc je suis toujours dans mon agence de communication. Et un jour, elle réapparaît un peu comme une fleur, en me disant « Salut, ça va ? Dis-moi, t'as pas un contact que tu pourrais me filer pour réaliser telle prestation ?» Moi, j'étais extrêmement surpris d'avoir de ces nouvelles, et surtout dans ce registre-là. Donc je réponds à son mail professionnel, et j'envoie en parallèle un SMS personnel lui demandant si elle veut qu'on se voit pour boire un verre et parler un petit peu, parce que j'avais besoin de parler. Elle répond oui. Et elle ne m'a jamais relancé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça sert à rien, ta quête de sens pour avoir réponse à tes interrogations n'est pas forcément nécessaire. Donc je ne lui parle plus et oublie-la. Et c'est ce que j'ai fait. Au final, on aura passé quelques semaines à se draguer et 2 mois de vraies relations. Mais j'ai passé plus de temps que ces 2 mois à me questionner sur le pourquoi du comment et à me morfondre un petit peu sur ce que je considérais être une injustice que les 2 mois effectifs de relation. Et c'était assez inédit pour moi. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they broke and you're so pain.
C'était Ghosting, une émission en forme de résolution pour une fois. Allez, en 2019, on arrête de ghoster. Et autre vœu pour tous les aimables et sympathiques auditeurs et auditrices, podcasteurs et podcastrices. Alors ça, je sais pas si on dit ça. Des pieds sur terre, c'était un reportage de Judith Chétrit, réalisé par Clémence Grosse. Merci à Jeanne, à Yacine Devos, à Philippe, à Jean et Mélanie Le Camus et à Rose Vidal. Pour l'illustration, c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, notre stagiaire. Busily, recently homies fronting insane, nothing, so I just